RMC, PLM et tous les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Oh non, mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, c'est parti pour l'after, on est ensemble jusqu'à minuit avec nous ce soir. Rebonsoir Pierre Ducroux.
Bonsoir Nicolas Villas, bonsoir Daniel Riolo.
Rebonsoir Daniel Riolo qui nous avait fait le teasing du RMC Poker Show qui suivra l'after bien entendu sur RMC.
Bonsoir Chardin.
Quelle mine Daniel, je l'ai dit tout à l'heure en radio, mais pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport.
Partir au soleil, hein.
Tu rayonnes sur ce plateau.
Bah écoute, oui.
Et t'es pas parti dans le sud, on précise.
Non, exactement.
Non mais dans le sud de Cabourg.
Dans le sud de Cabourg.
Ouais, peut-être. La plage, elle est dans le sud de la ville.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça,
c'est vrai. C'est bon.
Ça, j'en sais rien pour le coup. Je vous rappelle les résultats de la 34e journée de Ligue 1. Je le fais peut-être. Regarde le mec. Nice a battu Montpellier 1-0. Saint-Etienne a battu 3-2 buts 1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Doublé de Beric, notamment. Au classement, ce soir, Nice est 5e. Avec un point d'avance sur l'AS Saint-Etienne. Bordeaux avait un petit coup à jouer quand même parce que Bordeaux, en cas de succès sur le Paris Saint-Germain, pouvait revenir, eh bien, à 3 points de la 6e place, à 3 points de l'AS Saint-Etienne. Mais Bordeaux s'est incliné ce soir 1-0 face au Paris Saint-Germain. Lo Celso, seul buteur de cette rencontre à la 77e minute de jeu. C'était pas un gros match, hein. On va pas se mentir. Je donne 4
points. Comment ça? C'est pas un gros match?
Ah, c'était pas GG, arrête Daniel. Arrête, va pas me troller.
Et cet après-midi, c'était comment?
Alors, je t'avoue que moi, cet après-midi, j'étais sur la première ligue.
Ok, d'accord. Je pourrais poser une question à Pierre Ducrot?
Oui.
Ah, où est Pierre Ducrot?
T'es où, Pierre?
Pierre Ducrot a disparu.
Il veut pas répondre à la question.
Viens le dire. Mais dis-le!
Mais dis-le, putain!
Dis-le!
Ah, c'est vrai que c'était une semaine, ça!
Ouais, je me suis ennuyé comme un rat mort devant le match de Bordeaux-PSG.
J'avais complètement oublié ce passage la semaine dernière.
Ben, fallait faire comme moi, j'ai fait deux. Le Juve-Napoli était pas mal du tout.
Alors, on va y revenir avec Simonetti tout à l'heure.
Si je peux répondre à Daniel, ceci dit, le PSG.
Franchement, t'exagères, c'était pas si. Bordeaux-PSG, c'était. Non, Pierre. Bah, tu vois, alors là. Alors là,
voilà, là c'est juste pour pas être d'accord.
Non, là je trouve que t'abuses.
On en
a vu des pires.
On a vu des pires, oui. D'accord,
Bordeaux.
Il y en a toujours. Il y a toujours pire.
Bordeaux.
On a vu des mieux aussi. Hein.
Je pense que si des supporters bordelais nous appellent,
enfin écoutent, c'est surtout les Parisiens qui vont nous appeler.
Oui,
ce soir,
non, mais si les Bordelais
avec un peu plus d'efficacité
nous appellent, je pense qu'ils vont dire que ça leur est arrivé de voir leur équipe nettement moins en jambes, mais nettement moins dans l'intensité.
C'est possible.
Déjà ça. Après que le PSG qui est champion, qui n'a plus qu'un match à jouer cette semaine, sa finale de Coupe de France 8 mai, réussissent encore sur ce match. Moi, je pensais qu'ils allaient être un petit peu dilettantes. Bon, ils n'ont pas fait le match de l'année.
Ils ont été un petit peu, Daniel. Okay. C'était pas, oui. Ça allait pas très vite. Hein.
Mais ils ont quand même été jusqu'au bout avec un Areola qui fait un gros match.
Ouais.
Des mecs qui ont été globalement assez impliqués pour finalement aller enquiller une victoire de plus.
J'ai pas senti le PSG très, très impliqué, honnêtement. Ouais.
J'ai dit qu'ils ont fait le minimum, ils ont fait un trois quarts d'implication. Un petit 60%.
C'était généreux ce soir.
Un petit 60%.
Il revient d'une semaine au soleil.
Est-ce que tu crois que t'es plus frais?
Ben, je pense que là, t'es dans une bonne humeur.
Deux journées de plage, hop, tu reviens, tu vois tout en bleu.
Je pense que la semaine prochaine, le même match du PSG, tu leur donnes pas trois quarts d'implication.
Tu devrais aller plus souvent au soleil. C'est trop sympa, je sais pas pourquoi, mais. T'as vu, ça me fait marre et tout. Daniel, je te reconnais plus, là. Je te reconnais plus. Cela dit, t'es malade, visiblement. C'est peut-être pour ça. Quelques résultats à l'étranger. Également. Tiens, premier match pour Arsenal après l'annonce du départ d'Arsène Wenger. Victoire 4-1 d'Arsenal face à West Ham.
Ben voilà,
il va réussir son coup.
Il devrait l'annoncer plus souvent, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Le mec qui se lève, il dit, oh putain, le vieux s'est cassé. Le vieux s'est cassé, les gars, on peut jouer maintenant.
Mardi, Arsène, il annonce, réannonce qu'il part.
Cela dit, il gagne 4-1, c'était pas un énorme match de la part d'Arsenal. Doublé d'Alexandre Lacazette. Manchester City, déjà champion, s'est imposé 5-0 face à Swansea. Benjamin Mendy a rejoué, sachez-le, avec Manchester City. On verra.
Il se dit apte.
Oui, il se dit apte, ouais.
À quoi? À tout.
Voilà. Ouais. Demi-finale de la Cup également. Chelsea a battu Bournemouth 2-0 avec un but d'Olivier Giroud. Les Français étaient bien aujourd'hui. La finale, ce sera le 19 mai, c'est un samedi. Ce sera entre Chelsea et Manchester United. Sachez que le prince Harry est très embêté à cause de cette finale. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le mariage de son frère le même jour et que normalement c'est le prince qui remet la coupe. C'est marrant comme histoire ça quand même. Du coup, le mec doit choisir entre la remise de la coupe.
C'est où? C'est à Wembley? C'est à Wembley le match?
Ouais, ouais.
Il a qu'à se marier à Wembley?
Oh, ça c'est une bonne idée.
Bah oui. Mais tu crois pas qu'il peut se trouver quelqu'un d'autre pour remettre la coupe dans la famille?
Bah, la tradition veut que ce soit ça, mais.
Attends.
Le père, tu parles?
Non, plein de fois.
Normalement, la famille est là, tu vois.
Non, mais plein de
c'est
fois.
C'est pas forcément.
En tout cas, en
plein de
Angleterre,
fois, ça
fait
le machin, la duchesse de Kent, là où. Comment il s'appelle l'autre là?
La chaise du Kent.
Non,
du...
non, ça n'a pas toujours été. Non, mais ça n'a pas toujours
non,
pas été
toujours,
un membre de la famille royale directe.
Que ce soit lui en ce moment. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. En Italie, le Napoli s'est imposé dans le temps additionnel 1-0 face à la Juve. Il revient un point, on y reviendra avec Simone Rovira.
Ceci dit, il y a un gros souci d'organisation dans la famille royale parce que la date de la finale, on la connaît depuis longtemps. Le frangin qui réserve son, enfin qui fait son mariage le même jour que la finale, alors qu'il sait que le frangin va devoir remettre la coupe, c'est quand même. Faut embaucher quelqu'un non, dans la famille royale.
Au niveau du
cadre. Bah, alors oui, quelqu'un pour organiser un peu tout ça.
C'est mal pensé les gars, c'est mal.
Bah oui.
Ça va plus chez les Windsor. Bordeaux s'est imposé ce soir. C'est incliné ce soir 1-0 face au Paris Saint-Germain. Lo Celso, seul buteur de ce match, et Paris qui enchaîne une semaine après. Eh bien son sacre après le 7-1 infligé à l'AS Monaco. Daniel, tu disais toi, tu les as trouvés à trois quarts. Bien,
trois quarts, peut-être pas, un petit 60-65% d'implication.
Tu te rends compte que t'es un peu généreux quand même.
Ouais. Non, mais.
Moitié impliqué, moitié pas impliqué.
Ils modifient encore le milieu de terrain, ils sont joués dans un faux 4-3-3. Bon. Il y a des mecs, enfin, franchement, hein.
Non, mais je peux comprendre.
Au terme de la saison, quand t'es déjà champion comme ça, en plus, Bordeaux a vraiment fait le match plein.
C'est compliqué d'être à 100%, on est d'accord.
Bon, voilà, il gagne encore une fois. Je sais que toute l'année, je parle de niveau d'exigence, mais quand t'as déjà atteint l'objectif sur le match d'après, des enseignements, vouloir demander plus, très franchement, je m'en sens pas l'envie, et je trouve que c'est pas tellement juste, quoi.
Ne le fais pas, Daniel.
Bordeaux doit avoir une opportunité, justement, à saisir sur ce genre de match-là. D'abord pour avoir une victoire de prestige. Parce qu'ils ont fait une saison
et puis pour se mettre
plus que moyenne. Non, voilà, l'histoire de l'Europa League, je ne croyais pas une seconde pour moi.
S'ils font ce qu'il faut ce soir, ils sont à 46, ils sont avec Montpellier.
Je croyais pas une seconde. C'était vraiment victoire de prestige pour eux. Faut pas non plus inventer, se raconter des histoires sur ce qu'était ce match. C'était pas. Pour moi, il y avait rien dans ce match.
Peut-être qu'il y avait aucun
enjeu. Pour moi, il y avait aucun enjeu dans ce match. Moi, je vois bien qu'à chaque fois, on essaye de vendre des trucs. Ouais, il y avait aucun enjeu dans cette rencontre, et je trouve justement. À partir du moment où on considère qu'il n'y avait pas d'enjeu, on aurait pu voir un match bien plus pour.
Tu sais comment ça, c'est toujours, on peut aussi voir deux équipes en roue libre avec des mecs qui veulent se montrer, notamment du côté de Bordeaux.
Bah,
tu
Bordeaux, Malcolm, il joue à son transfert ce soir. Hein.
Ouais.
Malcolm, il joue à son transfert.
Alors moi, c'est ce que j'allais dire à la fin du match. T'es directeur sportif, Malcolm, tu le prends là quand tu vois ça ce soir.
Non, mais tu sais, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'offres que ça pour lui et avec autant d'argent. Je pense qu'à Bordeaux, on
essaie
la direction. On s'est fait un peu une montagne de ce qu'il pourrait rapporter. Mmh. Je suis pas sûr qu'il rapporte autant que
cette
certains
semaine,
espèrent.
Tout le monde a parlé, hein. Le président Martin, Nicolas Taverneau, tout le monde a parlé.
Moi, je pense.
Alors là, je t'annonce que là, les dirigeants, là, c'est VRP multicarte, hein. C'est Coluche avec les R16, hein. Ça y est, les mallettes. Eh, Malcolm, il est formidable. Mais Malcolm, il peut faire la vaisselle chez vous.
Attends, il va garer vos bagnoles
sur le parking. Venez m'acheter Malcolm.
Super bagnole, la R16, la TX, notamment. Non, mais sans rien.
Ouais, bien sûr.
Super.
Comment t'as pu connaître ça, toi?
Non, mais parce que, je te l'ai expliqué. Mon père était un grand fan de bagnoles anciennes.
Ah, d'accord.
Petite Dauphine.
Oui, d'accord. Après.
C'était la première voiture de mon grand-père. Si ma vie vous intéresse, hashtag RMC.
Je crois que la voiture culte, pour les Portugais, c'était la R12, à une époque.
Ah, moi je suis pas portugais, mais j'ai mon papa.
Alors je vais te dire, tu sais ce que c'était? Ça a plus été la R18. Et donc mon père, comme tout portugais qui se respecte, a une R18 break d'ailleurs et une normale aussi. Voilà, une berline. Sachez-le. Et ou
elle
encore,
elle permettait de faire Paris-Porto d'une traite.
Ouais, on y allait.
Ou quasi sans s'arrêter.
Non, si on s'arrêtait quand même. En plus à l'époque il y avait pas les autoroutes. Mais la bagnole culte qu'a eu mon père quand même, et ça c'était vraiment, et ça je m'adresse à toi, et qui t'as obligé, t'as fait un voyage dans cette bagnole. Peugeot 504, intérieur avec le lion devant, doré, mon pote, qui appartenait au maire d'Orgeval.
La 504, la 504,
était magnifique.
Ah bah c'était du haut de gamme.
Allait plus jusqu'au sud de l'Espagne, direction Maroc, Portugal.
Ah, mais elle faisait beaucoup de Portugal aussi.
La Peugeot 504, quand même. Elle était plus,
Voilà, on attend bien entendu vos propositions.
Voilà.
Sur le hashtag RMC.
Alors moi, pour revenir à Malcolm, si ça vous intéresse.
Mais non, on parle de R16.
Non, Malcolm, c'est vrai qu'il
faut. Non, moi, j'allais te poser une question. Tu penses que les dirigeants de Bordeaux, je voulais VRP comme tu dis uniquement pour se faire de l'argent ou parce qu'il y a
les comptes sont sortis, il y a un déficit. Il faut combler le déficit à Bordeaux.
Tu vas voir là où je veux t'emmener parce que effectivement c'est un des joueurs qui a une valeur marchande
et qu'en plus
ils veulent absolument s'en débarrasser. Moi je pense qu'il y a
un peu les deux. Non mais de toute façon ils doivent vendre pour les comptes. Apparemment les Américains qui étaient sur l'affaire là, ils sont plus du tout bottés.
Ouais, alors disons qu'ils ont pas assez, ils cherchent des partenaires, ils ont pas les fonds pour acheter l'ensemble du club.
Quand un truc te botte, tu trouves l'oseille. Donc résultat, ça les botte plus du tout là, Bordeaux.
Et puis le montage,
Martin là, le banquier là, il veut vendre Malcolm absolument pour gagner un peu de blé. Je pense que dans ses rêves les plus fous au début de la saison, il s'est dit qu'un petit chèque de 50 ça pouvait tomber. Là je pense qu'il sera très très loin.
Ou alors je comprends plus rien. Bon.
Là je pense qu'il est en fin de stock solde, il est obligé de sortir tu sais sur le portant que tu mets dehors là.
Et l'air de rien,
en dehors de la boutique, t'es sur le trottoir. Là.
Alors, tu sais quoi, on en parlait tout à l'heure pendant le match. Est-ce que la meilleure façon de vendre un joueur, c'est de que tout le monde, que tous les dirigeants, en l'espace d'une semaine, crient sur tous les toits. Ils le disent.
La meilleure façon de vendre un joueur, déjà, c'est que le joueur
contre le PSG,
il fasse un match, même sans parler de but, mais qu'il fasse un match correct. Là, le match, honnêtement, il est pas terrible.
Le petit ponceur Berchis, ça vaut quoi de 2,5 millions à peine.
Attends, il y a eu Berchiche et il y en a eu un premier en première période. Attends, il y a Berchiche.
Berchiche,
deux fois alors, non?
Non mais le deuxième c'est pas lui qui le met.
C'est Berchiche qui prend deux petits. Ah, il prend deux, mais 2,5 millions le petit pont sur Berchiche, pas plus.
Aïe.
Par contre, il y a un corner loupé juste avant, tu perds 500.
S'il fait ça à Marquinhos, c'est peut-être 3,5.
Ouais. La cote du petit pont se tient pas mal en ce moment. elle est bien. On va accueillir Khalil, supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. Salut Khalil.
Bonsoir les gars.
Salut Khalil. Est-ce que t'avais envie d'être exigeant même quand tout est joué?
Ouais, moi je suis toujours exigeant, je suis un Parisien. Après, franchement, Daniel, en fait, t'as tué ce que j'allais dire juste avant, mais je vais quand même le faire. En tant que leader, champion, et en fait, je vais oublier le délire championnat. On va oublier le contexte dans lequel on est dans le championnat. Pour les joueurs du PSG, pour la grande majorité, ils vont jouer une Coupe du Monde. Donc ce soir, moi, je vais retenir Areola, top player, un très beau match. Bordeaux, ils jouent avec leur arme. Franchement, ils ont pas démérité, mais voilà, c'est pas transcendant. Ensuite, pour revenir aux trois points que je voulais citer par rapport aux joueurs du PSG, je vais commencer par une erreur de casting qu'on connaît tous et que vous avez cité, qui vaut pas plus de 2,5 millions d'euros sur le marché de transfert, c'est-à-dire Youri Berchiche. Merci, au revoir pour moi. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il a été cool, il a fait le petit passage.
Berchiche, il vient pour être doublure au départ. Hein.
Ouais, les deux, qu'on les double, les deux, ça serait
oui,
bien.
Oui, mais en l'occurrence,
on a deux doublures.
En l'occurrence, il devient titulaire parce que l'autre est en dessous de tout. Donc, voilà. Je pense qu'un arrière-gauche, enfin, l'achat d'un arrière-gauche s'imposera. Et si Berchiche reste parce qu'il a un contrat, en doublure, il fera l'affaire, hein, t'inquiète. Hein.
Ouais, voilà, mais bon, qu'on le double vraiment, quoi. Enfin, que même l'année prochaine, ce mec-là termine vraiment doublure en cas de rupture des ligaments croisés. Il rentre, hein, qu'on se retrouve pas avec un mec comme ça face à Chelsea ou au Real, parce que là, c'est bon. À un moment donné, il faut parler football, on veut gagner une Coupe d'Europe. Donc lui, bon, c'est pas grave. Je vais passer le point à Youri Berchiche. Je vais passer sur Adrien Rabiot.
Fin de saison, Daniel, lui, puis quand il est 6, il fait exprès d'être un peu moins bon.
Il joue 6 ce soir.
Non, mais c'est excellent parce que Daniel, je sais pas si tu te rappelles, en début de saison, ça a été houleux avec Jérôme sur le plateau, parce qu'on a cité un point qu'on était tous les deux d'accord dessus, c'est-à-dire les chichas. Je sais que j'abuse sur le sujet des chichas, mais je vais en reparler. On est en train de voir un Adrien Rabiot qui perd de plus en plus son cardio, qui perd beaucoup de combats.
Il s'est un peu calmé, hein, il s'est calmé un peu sur la chicha.
Il a compris
que c'était un peu négatif.
Il est passé peut-être à la chicha électronique, ça c'est un autre délire, mais...
Ah, ça je savais pas que ça existait, ça.
Ouais, si, ça existe.
La chicha électronique? Non, mais Jérôme Thomas d'ailleurs.
Il parle de la cigarette électronique,
je pense que c'est ça, ouais.
Ah non, la cigarette, pas la chicha.
Non, la chicha électronique aussi existe, les gars.
Sans déconner, ça marche.
Toi, ça a plus de charme.
Je savais pas. Bon, je pense qu'ils ont les moyens de s'en acheter plusieurs.
Non, ça a plus de charbon, je dis, la chicha
est
chronique.
Ah oui, aussi, ouais. Ouais, non, mais donc, voilà.
Bah, je veux dire, tu respires plus de charbon et tout, quoi.
Vas-y, Khalil.
Moi, je pars du principe où il n'est pas irréprochable en équipe de France sur ses dernières prestas. Au PSG, sa saison n'est pas transcendante. Tous les étés, on a un fameux Rabiot-gate avec sa maman qui veut refaire signer son jeune homme qui est courtisé par toute l'Europe. Mais moi, je vois pas de grand milieu de terrain pour le moment, à part quelqu'un d'assez arrogant sur le terrain qui ressemble de plus en plus à son comportement à Thiago Motta, qui marche, qui n'a pas l'air impliqué dans certains matchs, qui choisit ses matchs, comme tu disais, Daniel, quand il est pas au poste qu'il veut. Et ensuite, moi je trouve pas ça en fait exemplaire d'un mec qui veut prouver quelque chose, qui veut prouver à l'Europe et à l'équipe de France et au PSG que c'est un top player. Donc attention Adrien.
Il a fait une roulette quand même aujourd'hui.
Un bon match.
Khalil, puisque tu parles du milieu de terrain, il y a une question que je me pose quand même depuis maintenant plusieurs jours, c'est où est Marco Verratti?
Ah bah il doit être.
Pourquoi il a décidé que la saison était finie parce que bon, ok, soi-disant blessure et tout.
Blessé, enfin, ouais, ouais.
Enfin, il fait quoi en fait? En fait, le post-Madrid, lui, pour lui, c'était terminé la saison.
Ouais, je sais pas, terminé. Je peux pas te dire.
Comme il fait ce qu'il veut, comme il fait ce qu'il veut. Voilà. Je pense qu'il a plus envie. C'est terminé. Terminé la saison. Lui, il décide quand il joue. Machin, pas de problème.
Puisque comme il n'a pas de Coupe du Monde.
Déjà que début de la saison, il fait ce qu'il veut tout le temps, il choisit les matchs et tout. Encore une fois, il faudra quand même me faire à un moment le bilan de Marco Verratti cette année au PSG. Et on enquillera avec le bilan de l'année d'avant, et le bilan de l'année encore d'avant.
C'est exactement la transition.
Par rapport à Giovanni Lo Celso qu'on a fracassé post-Madrid, alors que il est dans une progression constante cette année et que je pense qu'il continuera à progresser encore.
C'est un des meilleurs ce soir d'ailleurs.
Et que effectivement, sur ce match, mérite pas d'indulgence parce que c'est vrai qu'il avait pas été bon dans une position inhabituelle en plus
pour
lui.
Mais c'est pas lui qui doit être bon ce genre
de match
en plus.
Mais c'est pas lui qu'il faut fracasser en priorité pour l'attitude globale qu'avait eu l'équipe sur notamment le match retour. Donc je trouve que lui est plutôt à féliciter pour sa progression cette année et la façon dont il est en train de s'installer dans cette équipe. En revanche, d'autres, effectivement, feraient bien de se regarder un petit peu dans une glace et de savoir ce qu'ils ont envie de faire pour l'année prochaine. Et comme il va y avoir un nouvel entraîneur, je pense que beaucoup de choses vont être remises à plat. Et je suis assez impatient de voir la tournure que ça va prendre pour certains joueurs. Ouais.
Exactement, c'est la parfaite transition de ce que j'allais dire sur Mbappé. Mbappé, c'est, je sais pas pour vous, hein, moi ce que je vois, hein, parce que j'ai connu le PSG, comme je disais l'autre fois à Pierre, je l'ai connu à son époque, moi j'ai grandi avec sa génération, moi j'ai vu des mecs, on n'avait pas les meilleures stars du monde, mais des mecs qui mouillaient le maillot, et moi je vois Mbappé, il a 19 ans, il a fait une très bonne saison certes à Monaco, cette année il fait pas une saison extraordinaire, il fait des très bons matchs, mais pareil, alors lui, je sais pas c'est quoi le problème, soit il est en train de rentrer dans le moule, comme les Rabiot, les Kurzawa, c'est-à-dire.
On va dire, il y a des matchs où on comprend pas vraiment ce qu'il fait, parce que être bon, il l'a été cette année sans problème. Maintenant, effectivement, ce soir, je regarde et je me dis, mais parfois, quand t'as la balle, que il y a une contre-attaque où il y a trois possibilités autour de toi et que tu la donnes pas. En fait, t'as envie de faire quoi?
C'est
bizarre parce que bon, c'est un mec qui est extraordinaire, qui a des qualités dingues, qui a fait vraiment des bons matchs cette année,
qui joue plus suffisamment sur ses qualités justement.
Mais qui parfois se complique et comme c'est un mec intelligent, je suis très étonné. Je me dis mais pourquoi tu fais ça en fait? Je comprends pas.
Moi, si je peux donner mon avis sur Kylian Mbappé et juste en restant sur l'aspect terrain, c'est un garçon qui est bourré de qualités quand il joue avec ses qualités justement et pas contre ses qualités. C'est un garçon qui doit baser son jeu logiquement sur 80 ou 70% d'appels dans l'espace sans ballon. C'est là où il est le plus fort. Sauf que aujourd'hui, j'entends de manière générale, pas que aujourd'hui contre Bordeaux, mais aujourd'hui contre Bordeaux, c'est un parfait exemple. Il décroche dans le milieu, il prend le ballon dans les pieds et il essaye tout seul d'éliminer 1, 2, voire 3, voire 4. Aujourd'hui, on l'a vu à un moment donné dans l'axe avec 5 Bordelais face à lui et essayer de faire la différence tout seul. Et il a beau avoir du talent, il a beau avoir des qualités, tu fais pas la différence comme ça à chaque fois. Tu vas la faire une fois sur 20 comme ça. Et pour moi, c'est un joueur qui en ce moment déjoue. Alors parfois il a tellement de talent, il va tellement vite, il est tellement puissant que parfois ça marche, oui, il a fait des choses extraordinaires quand même cette saison. Mais il aurait pu en faire pour moi, je pense, s'il n'avait pas déjoué par rapport à ses qualités et à son football, il aurait pu faire encore beaucoup plus.
Exactement, ben moi ce que je vois c'est qu'il veut faire du Neymar.
Déjà, ouais, c'est un peu de mimétisme, t'as raison.
Voilà, il est très très proche de Neymar et le comportement de Neymar n'est pas irréprochable. Comment un mec blessé, alors on avait parlé de lui avant le match du Real, il va se faire opérer au Brésil, il est en train de se stabiliser au Brésil, ça fait un mois qu'il est au Brésil.
Il devrait revenir début mai, hein, sache que ça va redéfaire, je vais la mêler sa petite enquête.
Ouais, mais à un moment on est le PSG, on veut être une institution qui tient le bateau au PSG. Et quand Verratti, il se balade sur Paris, parce que moi, je sais un peu ce qui se passe sur Paris, on n'est pas cons. Les mecs, comme il disait Daniel, ils choisissent leur match, ils décident d'arrêter de jouer. Qui tient le navire PSG actuellement? Même à l'époque de Colonie Capitale, il n'y avait pas des mecs qui faisaient ça. Certes, ce n'est pas des stars comme maintenant, mais il y avait un respect de l'entité. Paris Saint-Germain, maintenant, il n'y a plus personne. Avant, c'était simple, tu faisais le con, on descendait au camp des loges, on mettait un coup de pression aux joueurs et le lendemain ils se caguaient dessus, ils allaient jouer. C'était pas ça le truc qu'il fallait faire, mais ça marchait.
T'as pas fait ça à mon époque, hein.
Si. Non, j'ai pas fait ça parce que toi tu méritais pas. D'ailleurs, Pierre, si t'as un maillot, je le veux bien.
Mais... oh, mais alors, si tu savais, j'en ai même plus pour mon fils.
Il m'a donné le dernier.
La vache.
J'ai donné le dernier. C'était un gris. Tu te rappelles du maillot gris Opel? J'ai donné le dernier à Nico.
C'était à l'époque d'Aloisio, si je dis pas de conneries, le gris.
Ouais, c'est ça, exactement. César Aloisio, ouais, exactement.
Et pour terminer, comment on peut se prétendant à la Champions League sans avoir de capitaine en haut du navire?
Mais Khalil, c'est un problème qu'on a souvent élevé. Parce que t'as mis le doigt sur une chose qui est très importante. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, dans la coulisse au PSG, c'est très compliqué. Alors, on sait qu'il y a plusieurs camps qui s'opposent, mais c'est vrai que Khalil, il a mis le doigt sur quelque chose qui est très important. On en parlait un petit peu pendant le match, mais il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de rumeurs. Qui sera l'entraîneur, le mercato à venir? Mais le premier mercato du PSG, c'est, j'ai envie de te dire, le mercato des dirigeants, c'est de savoir qui va diriger ce club finalement la saison prochaine.
Il y a tellement de guerres en interne, on en a souvent parlé. Hein.
Là, c'est compliqué.
Malheureusement, c'est pas nouveau et malheureusement, ça a pas changé depuis le départ d'un Leonardo. Voilà, c'est pas compliqué. Il y avait un semblant de départ de quelque chose. Ouais. Et puis derrière, il y a plus.
Qui va nommer l'entraîneur? Donc, est-ce que les guerres vont cesser en interne?
Antero, ça sent la fin, quand même.
Oui, ça sent pas très bon, ouais.
Antero, ça sent la Chine.
Voilà, en tout cas, c'est pas l'image qu'on veut de joueurs qui disent futur joueur de l'équipe de France pour le mondial. Moi, avec une mentalité comme Rabiot, Mbappé, ce soir, le seul de l'équipe de France, hein, je parle, hein, qui a mouillé le maillot ce soir, c'est Areola. Areola, équipe MB, bon, il fait un match.
Areola, des boulettes, il en a fait cette année, l'année dernière. Là, ce soir, il fait un gros match. Félicitons-le pour son match. Effectivement, il a fait une magnifique partie. Lui aussi, ça lui est arrivé de passer au travers. Donc, bon.
Merci en tout cas, Khalil, de nous avoir appelé.
Ouais, de rien, au plaisir.
Bonne soirée. Khalil, fact-checking.
Comment?
Sache une chose, fact-checking. Ouais. Je suis allé vérifier. La chicha électronique, bien sûr que ça existe.
Ouais, ça existe.
Entre 75 et 200 balles quand même, hein, la chicha électronique.
Mais l'appareil.
Non, en fait, si tu veux, c'est à la forme d'une cigarette électronique.
T'as pas le narguilé à côté. Il faut le narguilé, il faut s'asseoir entre potes et tout. Faut pas faire ça n'importe comment, sinon ça sert à rien. Voilà.
Merci en tout cas, Khalil. C'est bon, ça. Bonne soirée.
Ciao.
On accueille Aurélien, autre supporter du Paris Saint-Germain, qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Aurélien.
Bonsoir l'after.
Salut Aurélien.
Alors Aurélien, Khalil, il n'était pas content. On est ravis que tu sois là.
Vous avoir.
Aurélien, Khalil n'était pas content il y a quelques instants, malgré la victoire du PSG de ce soir. Et toi, alors Aurélien?
Écoutez, je partage pas son avis. Ce match-là, je pensais que, un peu comme Daniel l'avait dit dans la semaine, les mecs sont un peu au bout du rouleau. Il y a plus d'enjeu évidemment en championnat, comme tout le monde le sait. Et puis Bordeaux, ils avaient aussi un coup à jouer. Donc je m'attendais à ce genre de match. Après, je suis un peu triste pour plein de choses ce soir, notamment la prestation de Javier Pastore, que j'ai toujours porté dans mon cœur, mais
ouais, terrible ce
là,
soir,
c'est à la fois la fin, et puis sortir à la 64e d'un match sans enjeu, ça veut dire que fallait vraiment le sortir.
Ah, mais Aurélien, t'as vu même techniquement, c'est ce que je disais pendant le match, que t'es un Javier qui soit encore pas trop investi dans des courses, dans des appels, dans du mouvement, mais même techniquement, il y arrivait plus là.
Ah oui, il était complètement. Depuis qu'il est revenu, dès qu'il fait des petits bouts de match, etc. C'est un fantôme. Donc ça fait un petit pincement au cœur pour ça. Et puis j'ai envie de dire repenser à l'avenir. Et puis un peu comme vous l'avez dit, repenser à la politique, etc. Et on voit que quand Mota, qui a 64 ans, il rentre à la 70e, ça fait un bien fou aux deux autres milieux. On sent vraiment une bouffée d'air pour eux. Et faut vraiment trouver une personne à ce poste-là. C'est la clé. Et voilà, après, Valide, juste avant, il parlait de Berchiche. J'ai envie de dire, je prends beaucoup plus de plaisir à voir jouer Berchiche. Ça se voit qu'il se bat, etc. Il est très limité. Mais c'est mieux que...
Oui, c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord, Aurélien. Moi, Berchiche, depuis le début, c'est vrai que souvent, il est attaqué. Je répète que le gars vient quand même d'abord dans un rôle de doublure. Que effectivement sur le terrain tu peux difficilement lui reprocher son implication.
Il est volontaire, vraiment,
après que ce soit un mec assez limité qui a connu une saison très très bizarre où il a été balancé titulaire à des moments où on pensait pas qu'il allait l'être et on aurait aimé qu'il le soit à des moments où l'autre était complètement bidon et on comprenait pas justement pourquoi Berchiche n'était pas.
Le problème du PSG se situe quoi.
Ouais voilà, je pense que on sait très bien qu'à ce poste-là il y a une carence qui doit être comblée, mais faire une fixette sur lui en particulier, je trouve que c'est pas vraiment juste.
La carence pour moi, elle est même sur les deux postes de latéraux. Hein, parce qu'honnêtement, de l'autre côté, tu fais quoi l'année prochaine? Tu remets Alves numéro 1 et Meunier numéro 2.
De l'autre côté, c'est pas pareil, Pierre, dans le sens où c'est juste une réflexion à mener. menée. Et la réflexion, elle sera menée par le nouveau coach, qui au début de la saison, en fonction du stage de préparation et des matchs, devra faire des choix.
Il met Meunier numéro 1 et il laisse les quelques matchs à Alves.
Mais je ne sais pas. Il devra mettre Meunier numéro 1 si Meunier s'impose. Parce que Meunier, sur ses derniers matchs, Dieu sait si j'ai plaidé sa cause pour qu'il le soit, mais sur les derniers matchs, il n'a pas été extraordinaire.
Je suis d'accord avec toi.
Alors que Dani Alves a plutôt été pas mal. Sur les derniers matchs, attention. Si, il a plutôt été pas mal. Donc, je pense que le nouvel entraîneur, ce qu'on attendra de lui.
C'est catastrophique, et c'est là que tu l'attends normalement, tu vois. Il y a plusieurs matchs.
Je t'ai dit les derniers matchs.
Et Meunier lâche, je pense, parce qu'à un moment donné, il en a plein le caleçon.
Moi, ce que j'attends du nouveau coach, c'est qu'il puisse bosser, et j'insiste sur ce mot, librement. Qu'il choisissent.
Tu penses que Kemri a pas bossé librement sur ce poste-là, par exemple, cette année?
Je pense que.
Moi, je pense pas. Je pense qu'il a fait ses choix comme il voulait.
Je pense qu'Emery n'a pas bossé librement. Je pense que Blanc n'a pas bossé librement.
Tu parles que ça vient de là-haut ou ça vient des joueurs?
Mais parce que Daniel Alves a clairement dit à Emery qu'il jouerait tous les matchs et les a joués. C'est tout.
Bah alors après, c'est la faute d'Emery. Hein. Mais à un moment donné, n'accepte pas.
Est-ce que Blanc a été libre au moment de gérer certaines situations avec des mecs qui avaient déconné dans l'effectif? Non. Voilà.
Tu parles de l'affaire Aurier, de City derrière.
Le point essentiel.
Moi, là-dessus, je pense réellement que c'est Laurent Blanc qui fait le choix de remettre Aurier à cette époque-là.
Il fait choix de le remettre. Tu as raison. C'est vrai. Mais il n'empêche que, au moment où ça arrive, il était pour le saquer définitivement.
Au départ de l'affaire, oui.
Voilà. Bosser librement, je pense que c'est la base pour un coach. Bosser librement. Et au PSG, c'est compliqué, malheureusement. Est-ce que le nouveau va enfin pouvoir le faire? On verra.
Aurélien.
Vous pensez pas que le temps, c'est un ennemi, justement, parce que là, quand vous parlez d'être libre et de construire quelque chose, etc., c'est en général quelque chose qui se passe pas en une saison, même pas en deux. Et du coup, je pense que les Qataris, enfin, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils peuvent se donner le temps? À l'époque où il y avait Ancelotti, ça s'est très rapidement terminé, et je pense que ça aurait pu être le début d'une construction un peu longue.
Ouais, mais
là, à l'heure actuelle, quand ils vont prendre un coach, ils vont vouloir du résultat, etc.
Mais le souci, Aurélien, t'as pas tort. Depuis le temps que les Qataris sont arrivés, ils auraient dû instaurer cette hiérarchie pour qu'un coach qui arrive se sente avec les pleins pouvoirs et puisse en avoir auprès des joueurs. Sauf qu'à un moment donné, bon, ils l'ont pas encore fait, ils ont pas encore trouvé la bonne manière de faire. Est-ce qu'ils la trouveront un jour? Je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont? Je sais pas. Culturellement, est-ce qu'ils savent comment doit fonctionner un club de foot? Je sais pas. Toujours est-il que s'ils l'ont compris, il faut bien que ça commence à un moment donné, quoi.
Merci Aurélien en tout cas de nous avoir appelé au 32-16. Le PSG s'est imposé 1-0 à Bordeaux ce soir. Supporters de Bordeaux, on vous attend au 32-16. On aura la réaction en direct également de Gustavo Poyet en conférence de presse. Bordeaux qui rechute et Bordeaux qui reste à la 11e place au classement. À tout de suite pour la suite de l'after avec Daniel Riolo et Pierre Ducourt.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo, dernières affiches de la 34e journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé 1-0 ce soir à Bordeaux. Saint-Etienne a battu 3-2. Nice a battu Montpellier 1-0. Saint-Etienne qui monte à la 6e place du classement. Nice à la 5e et Bordeaux qui est 11e.
Saint-Etienne
avec
qui est pas passé loin du vieux match nul pour Havre, hein, contre 3.
Qui était mené 1-0.
Ils étaient menés, quand ils égalent, ils ont dit ouf. Après, sur la seconde période, ils ont quand même les occasions. Mais bon, ils sont assez maladroits. Ils mettent du temps finalement à les mettre, les buts.
Restons sur ce Bordeaux Paris Saint-Germain. Alors on est
qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce match sans enjeu, quoi.
Parlons de Bordeaux. On va accueillir Benjamin, supporter.
On va laisser parler Benjamin parce que sur Bordeaux.
Salut Benjamin.
À part la vente du club, qu'est-ce qui est intéressant?
On a le droit d'en parler un petit peu.
Benjamin, je te coupe deux secondes. Il y a Gustavo Poyet qui est en direct en ce moment même en conférence de presse. On va écouter l'analyse.
Il va pas parler de la vente du club.
Beaucoup de plus que perdre ces matchs-là. Alors c'est la sensation que comme entraîneur. Moi, première de tout, je regarde quelle équipe j'ai mis sur le terrain de jeu, pourquoi, si ça marche bien, si on a bien défendu, si on a bien attaqué, si on a créé d'occasion. C'est beaucoup de choses qui sont positives. Mais à la fin, on a perdu le match. Alors, on a manqué cette qualité, dernier tir, ou la qualité des buts qu'il a marqué par ce chemin. Et c'est comme ça, hein, quand tu joues contre les champions, j'ai dit, il faut être parfait.
Et Gustavo Poyet en direct en conférence de presse. Bordeaux qui s'est incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain ce soir.
Bon, il a des regrets, on a compris.
Je voulais bien jouer Dijon demain pour te répondre à cette question-là. Parce que ça, c'est d'ici à la fin de la saison, le plus grand match qu'on a, c'est la prochaine semaine. C'est le même que tu m'as demandé que je veux voir. Et c'est pas un truc de jouer les mêmes équipes, c'est pas un truc de jouer un autre système. Mais c'est des joueurs qui sont en train de jouer, de donner tout puisse en donner aujourd'hui. Parce qu'on peut le faire. On l'a montré beaucoup de fois, mais je sais pas, il faut mettre un maillot de Paris Saint-Germain à Dijon ou de Lyon. Mais c'est à moi de travailler sur ça. Tu sais, des fois, comme je vous dis, on peut parler de tactiques, de techniques, de définitions, de défendre plus haut, plus bas, de pressing, de beaucoup de choses. Mais j'ai besoin de travailler beaucoup dans cette situation mentale d'être les mêmes équipes chez nous contre toutes les équipes, pas contre les équipes qui sont en haut de la table. Mais c'est moi. C'est voilà. Moi de trouver ces solutions, peut-être c'est de changer, peut-être c'est de surprendre quelque chose sur les joueurs, non, de mettre 3 ou 4 crises.
Voilà, c'est la réaction en direct de Gustavo Poyet.
Là où je le rejoins, c'est que si je suis à sa place et si je suis même supporter de Bordeaux, je suis quand même un petit peu agacé de voir qu'effectivement contre le PSG, ils sont capables de mettre cette intensité et au moins cette implication, et que dans plein d'autres matchs qu'ils auraient pu gagner, ils ont joué en touriste et ils ont complètement gâché leur saison. Les mêmes joueurs, notamment un mec comme Malcolm qui a un peu saccagé sa saison
Et ça te surprend ? Non.
Ah, ça me surprend pas. Je dis, si je suis à la place de Poyet et si je suis à la place encore plus des supporters bordelais, franchement, c'est très très énervant.
On va voir ce qu'on dit Benjamin justement. Benjamin, rebonsoir.
Ouais, rebonsoir.
Parce que les supporters, ils s'en foutent de perdre contre le PSG. Il va trouver ça juste normal. Mais quand il voit qu'ils sont capables de faire ça et qu'ils le font pas contre d'autres équipes, c'est méga frustrant et très énervant.
Ton avis, Benjamin, justement.
On en a un peu l'habitude depuis quelques années de sortir des gros matchs contre Lyon, contre Marseille à domicile, contre Paris quand Paris est un peu démobilisé comme soir. On n'était pas loin. En effet, Areola fait une grosse parade sur Pablo, qui, je pense, à 1-0, voilà, il aurait fallu qu'il en mette 2 pour gagner, donc c'est un petit cul ouvert pour nous. Non, ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus de faire un match où il y a beaucoup d'envie, de concentration, ce qui est dommage, c'est qu'en gagnant, on était encore dans le coup pour jouer. Alors, je ne sais pas ce qu'on jouait, hein, cette 5e, 6e place qu'on veut pas vraiment, finalement, je pense aussi. C'est vrai qu'on est un peu
la 6e place, mais déjà je sais pas comment Bordeaux y arrive, mais ce serait une catastrophe pour le club.
Ah ben oui, non,
mais en tout cas on l'a vu cette saison.
On a déjà joué dans le film l'année dernière. Ouais. Voilà, ça fait repartir en juillet, mais bon, encore sans parler de ça. Tu parlais tout à l'heure de Saint-Etienne. On a vu qu'on manquait d'efficacité devant, même avec Berich qui a deux occasions de but. Voilà, c'est on manque de talent devant. On a trouvé une charnière centrale, qui, avec Pablo le revenant, qui est en 6 mois revenu métamorphosé du Brésil. Le petit Koundé qui sera très bon, Sabali qui sera bon, voilà, il nous manquera un arrière-gauche, bon, et puis un peu de création au milieu, mais bon, c'est sûr que c'est un peu frustrant de voir que ils se battent, ils vont partout et que à la fin, même si on perd, parce que voilà, c'est Paris, au moins le public était content et n'est pas venu au stade pour rien, quoi.
Eh ben merci en tout cas Benjamin de nous avoir appelé.
La sortie de Sankaré là, le changement.
Ouais, il était pas content.
C'était quoi l'idée en fait?
C'est-à-dire l'idée quoi de Poyet, tu veux dire, ou la réaction de...
Bah, peut-être pour mettre le pied un peu plus sur le ballon avec Maïté, mais bon, c'était pas il était pas content de sortir en tout cas.
Ouais, Sankaré a pas compris.
Je t'avoue rien, que j'ai même pas réfléchi moi ça.
Je pensais que quelqu'un aurait la réponse.
Bon, je vois pas trop le. Ouais, je sais même pas s'il y a une réponse, quoi. Je sais même pas s'il y avait une idée, quoi.
Merci Benjamin.
Bon, bref,
en tout cas.
Si c'est pas les Américains, il y a il y a peut-être des investisseurs français et tout. En tout cas, c'est vraiment en vente, hein. Là, il faut juste finaliser, quoi.
Ouais. Un mot sur Saint-Etienne qui a battu 3-1. Alors, Saint-Etienne qui a eu chaud. C'est vrai que tu le disais il y a quelques instants. Nian, encore lui, avait marqué pour 3 en tout début de match et doublé de Berić. Alors qu'il y a quand même des stats assez folles depuis qu'il est de retour à Saint-Etienne. Il a claqué 7 buts en 12 apparitions. Berić.
Bah, plus que Berić, c'est d'abord l'homme qui a décidé qui jouerait et qui a fait les changements, donc c'est Gasset quand même qui a bien modifié le visage de son équipe à la mi-temps.
Très tôt, ouais, voilà.
Ils se sont retrouvés tout de suite avoir un...
Il a bien modifié le visage de son équipe tout court, hein. Depuis qu'il est là quand même, Saint-Etienne, c'est une autre histoire.
Ça c'est la première étape, ça c'est clair. Mais après quand même, là, il termine avec donc Bamba, Berić, Monet Paquet, Amouma...
Cabela est sorti.
Non, et Cabela.
Cabela est là, ouais.
Et à un moment, Amouma sort, et j'ai raté le changement parce qu'ils doivent pas être tous les 5 en même temps. Mais enfin, bref, le visage est résolument offensif à ce moment-là. Il y a les occasions, ils font pas toujours ce qu'il faut, c'est pas tout le temps parfaitement huilé, mais il y a vraiment une autre intention de jeu, effectivement, dans cette saison où Saint-Etienne a connu le pire, le bien maintenant.
Hermani qui rentre.
Oui, voilà. Ah bah donc à un moment ils ont été alors tous les cinq. Je sais pas si eux ils en ont envie de cette sixième place, parce que je crois que personne la veut. Mais la cinquième, elle est encore jouable hein, pour cette équipe. Mais franchement, c'est vrai qu'ils font, ils font en tout cas plaisir à voir, quoi. C'est pas mal.
Mais tu vois,
tu retrouves un Cabella virevoltant. Ok, il fait pas tout le temps peut-être les bons choix et tout, mais bon.
Non, mais il y a de l'énergie,
il est
de
très important. Il se passe quelque chose. Son Gauthier derrière, il tient le truc bien. Il y a l'arrière gauche là.
Même Villain.
Gabriel Silva qui s'appelle. Ouais. Pas mal. Bon, évidemment Debuchy. Non, franchement, l'équipe, si elle avait démarré avec cette tronche là à la première journée au mois d'août.
Oui, qu'est-ce que ça aura donné?
Je sais pas, il sera certainement top 5.
Ouais, après avec Dessy, ouais, c'est peut-être aussi quelque chose qui s'est créé justement dans la difficulté.
C'est avec Dessy, mais bon. Attends, il y a quand même des bons joueurs là.
Carrément. T'as des circonstances, t'as le contexte, t'as aussi des joueurs qui sont bons parce que aussi sont à leur lance. Un Subotić en début de saison qui part, il a peut-être pas le même état d'esprit.
Non, ça je suis d'accord avec toi. C'est vrai.
Peut-être que Berić ne revient pas si tout fonctionne à peu près bien aussi.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une réaction. Oui, c'est vrai.
On va accueillir Hervé, supporter de l'AS Saint-Étienne, qui nous a appelé au 32-16. Salut Hervé.
Salut Nico, salut Daniel, salut Pierre.
Salut Hervé.
Salut l'after.
Salut. Bon, hey, Hervé.
Oui.
Bien synthé là ce soir là. Européen mon gars.
Eh ben ouais, ça y est, enfin. Alors c'est vrai que moi j'ai le bonheur, le plaisir de discuter souvent des verts avec vous et il y a eu plein d'étapes cette année. Il a fallu qu'on lutte pour avoir la barre des 20 points. Il a fallu lutter encore plus pour avoir la barre des 30 points, et c'est vrai qu'une fois ces 30 points acquis, ben là on commence à bien enchaîner. Comme vous le disiez, hein, l'équipe, si on avait pu démarrer la saison avec, bon ben avec Dessy, on peut faire plein de choses. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que moi ce que je retiens là sur ce match, et même le match face à Strasbourg la semaine dernière, c'est deux matchs où on a été dans la difficulté, et c'est deux matchs où on a quand même réussi à prendre les points, donc ça c'est très très positif à mon avis. On a eu une petite période justement un petit peu d'euphorie où on fait un super match contre Marseille, on fait un bon match contre Lyon, on fait un bon match contre le PSG, fait voilà les grosses affiches, on prend les points contre les plus
sans
petits.
Sans le CSC de Debuchy, ils sont cinquième Saint-Étienne, non?
Eh ben oui. avec les deux points de plus, je crois, ouais, c'est ça. Hein. Bon après voilà, ça aussi ça fait partie des si. Alors il y en a qui vont te dire si on bat Dijon alors qu'on fait que match nul à Geoffroy Guichard. Bon après on va pas non plus gagner tous les matchs, mais moi ce que je retiens sur les deux derniers matchs, c'est ce truc où voilà, là il a fallu aller un petit peu plus à la maillotche et aller chercher vraiment ces points-là. C'était mal embarqué cet après-midi. Et puis voilà, il y a le caractère un petit peu de cette équipe qui se révèle. C'est ce qu'on pouvait craindre aussi avec toutes les arrivées et le fait que les joueurs soient à la relâche, c'était peut-être un excès d'individualisme où chacun aurait voulu un petit peu.
Tu peux nous rappeler les mecs qui jouaient au début de saison et qui se sont barrés là, une tripotée de pieds carrés. Hein. Vas-y, envoie un peu.
On avait donc Pogba.
Ouais.
Léo Lacroix.
Ouais.
Alors après, je peux t'en sortir qui sont encore là mais qui jouent plus. Hein, des Mbeng.
Ouais. Non, les mecs qui étaient sur le terrain au début de l'année quoi.
Eh ben ouais, mais Yanko pareil, hein, il est plus du tout dans le groupe. Mais il était là au départ.
C'est mieux d'avoir des joueurs de foot plutôt que des catcheurs sur un terrain.
Ah ben oui, j'ai oublié Diony également là.
Diony qui est parti en Angleterre.
Oui, je crois qu'il marque pas plus de buts là-bas.
Non, il joue pas le club.
Et lui, il est sous contrat, il va revenir, hein, tu sais. Lui, vous l'avez encore. Hein.
Eh ben je sais, il devait rester là-bas en fait s'il monte en première ligue. Le problème c'est qu'ils étaient deuxième quand il est arrivé, depuis ils sont septième.
Ils vont pas monter.
Donc voilà. Sur les cinq derniers matchs de Bristol City, il en a joué un et c'est 23 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'il fait vraiment banquette à Bristol. Hein,
pour être complètement honnête, cet hiver, même début janvier, j'avais très très peur pour Saint-Etienne. Hein. Honnêtement, j'étais pas persuadé que tous les renforts qui arrivaient allaient pouvoir être aussi efficaces et autant bon à la relance. Ouais. C'est assez exceptionnel. Alors là, à mon avis, il faut reconnaître le travail de la doublette printemps Gassé parce qu'ils y sont pour beaucoup.
Et quel est le bilan quel est le bilan que tu fais dans les recrues? Il y en a un qui est un peu en dessous, c'est Ntep, non? Comment tu vois ça?
Ah ben il est clairement en dessous, lui. Ouais. J'en ai parlé l'autre fois justement après le match contre Paris.
Non mais dans les mecs qui sont arrivés.
Il fait même de la peine.
Physiquement il est pas bien parce que je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, par contre, il est dedans aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense qu'il est bon, puis sinon Gassé le mettrait même pas
titulaire. Moi j'ai eu quelques bruits aussi, mais
je pense qu'on peut faire confiance à Gassé pour ça. Après, on a l'impression que c'est une recrue, même s'il était là sur les six premiers mois. C'est Rémi Cabella également qui
Cabella, il est transfiguré là, il est quand même bon là.
Et ce qui fait plaisir en plus, c'est que ACNT, ça faisait très très longtemps, je vais pas remonter à Lubo Moravchik, mais ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur placé justement derrière l'attaquant.
Un vrai 9,5, un mec qui distribue le jeu, qui touche tous les ballons, tout ça.
Moravchik,
c'était la grande classe.
Et voire même placé derrière deux attaquants, parce que comme tu disais Daniel, et c'est pas la première fois que Gasset le fait, on finit le match avec cinq joueurs quand même à vocation offensive. Ce que vous disiez aussi, il attend pas la 75e pour faire les changements, il fait dès la mi-temps. Et ça, pour le coup, contre Paris, le petit bémol qu'il y avait, moi j'avais trouvé...
À Paris, il le disait à Blanc, mais Blanc écoutait pas.
Ben ça devait être ça. Après, contre Paris, pour le coup, je trouvais que Gasset, les changements qu'il avait fait, ça avait pas été... pas été transcendant là pour le coup. Ben encore une fois, il fait sortir Berić du banc qui met deux buts, donc ouais, une vraie influence, une vraie patte Gasset. Et après, Sainte, ça fait partie de ces clubs où on sait que quand les résultats viennent ou suivent, ben voilà, il y a le public, il y a l'ambiance, il y a la ferveur.
Et la belle série, hein, 12e match sans défaite pour Sainte. Merci Hervé de nous avoir appelé.
Ben merci à vous les
gars.
Bonne
soirée.
Juste un dernier petit truc, parce que je me fais tanner à chaque fois que je passe. Je fais une grosse bise à Arnaud, parce que sinon il va me pourrir.
Bisous Arnaud.
Sois cool Arnaud quand même. Avec Hervé.
Salut Hervé.
Voilà, il va arrêter
de te saouler l'autre. Non, t'inquiète, on est là.
Ouais, merci.
Salut.
Merci.
Un petit mot sur Nice également, qui a battu Montpellier. Et alors là, je me tourne vers toi, cousin, parce que c'est vrai qu'il y a aussi quelques mois, on se moquait de toi quand Nice était mal.
Vous deux, là, tous les deux, vous m'avez ri au nez
et
à
Nice
la barbe.
Ce soir est cinquième. Alors, c'est loin d'être, ils sont loin d'être peinards, hein, les Niçois encore pour le moment.
Non.
Mais Nice est cinquième.
Ils sont mieux là que face à Montpellier. Comme en octobre, effectivement.
T'imagines les rebondissements qu'il y a eu cette année, mine de rien. Nice.
Ouais, celui-là était prévisible, Daniel. Quand tu connais un peu le foot,
Saint-Etienne à la cave. Nice était à la cave.
Alors Lille, il n'y a pas de rebondissement. Disons, on en attendait un.
Lille, il n'y en a pas malheureusement pour eux.
Il n'y a pas de rebondissement parce qu'ils sont pas bien sur le
début.
On
attendait autre chose.
Te dire que où ils sont au début de l'année, quand ils sont vraiment à la ramasse, et les voir cinquième aujourd'hui, c'est inattendu.
J'avais compris Lille.
Il y a plein de choses comme ça dans cette saison de Ligue 1. Je veux dire, la Ligue 1 à chaque fois devrait nous ramener à beaucoup plus d'humilité dans les analyses qu'on fait trop vite à l'automne. Chaque année, c'est la même histoire et chaque année, souvent, on retombe un peu dans les mêmes pièges, mais on pourrait dire de la même façon quand même que Monaco, à un moment, a eu plus de 10 points d'avance sur les deux Olympiques.
On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce que le mercato va donner, c'est la vérité
bien
du moment.
Sûr, mais
c'est l'analyse sur ce qui s'est passé auparavant.
La Ligue 1 propose quand même très souvent des rebonds assez étonnants quand même.
Il y a des choses, Daniel, qu'on maîtrise pas toujours, c'est la structure du club, ce qui s'y passe à l'intérieur d'un groupe aussi, et ça souvent sur une saison ça joue énormément.
D'accord.
Moi Nice à l'époque quand j'en parle c'est parce que je suis intimement convaincu que à l'intérieur du groupe tout va bien et que à l'intérieur du club tout va bien et que ça va être comme ça toute la saison.
C'est pas que dû à ça, c'est dû aussi au parcours des autres et qui fait qu'en Ligue 1 sur une bonne série tu fais des bons spectaculaires quand même. Et là voir où était Nice, voir où était Saint-Étienne, les saisons c'est spectaculaire, mais dans un certain sens entre Monaco, les trous d'air qu'ils ont eu dans la première partie de saison, après on resserre les boulons après l'élimination, on remonte, on se détache et puis là d'un coup on dérape, on laisse revenir les deux autres qu'on n'a pas imaginé une seule fois être deuxième.
Enfin, on parle de série, messieurs, c'est une série de combien t'as dit tout à l'heure, 12 matchs
sans défaite en Ligue 1.
Ça commence à être de la bonne série quand même, hein. C'est un tiers du championnat.
Attention, c'est de la bonne série.
Oui, non, mais je veux dire, c'est pas une série de 3 matchs, 3 victoires.
Bah, c'est 2018,
tu passes de 6e à 6e.
On file en Italie dans quelques instants avec Simone Rovera parce qu'il y avait un choc, le premier face au deuxième, Juve Napoli. Comme ça, on vous attend au 32-16 pour en parler sur l'hashtag RMC Live aussi. Simone arrive à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo également. Simone Rovira nous rejoint puisqu'on va se projeter dans quelques instants sur le choc italien.
Le match de la soirée.
Le match de la saison peut-être.
Dis-nous bonjour l'italien.
Bonsoir.
C'est pour toi
aussi. Si la caméra était sur moi, tout était prêt pour mon.
Toujours coiffé de sa roupette, bien entendu, Simone Rovira.
C'est un hommage à Marek Hamšík, le capitaine de Naples. Peut-être c'est lui qui va soulever les titres.
C'est un hommage à Arturo Brachetti.
Peut-être aussi.
C'est vrai,
Je dois me cacher ici et revenir habillé de
en femme, en homme, ce que tu veux.
Il fait encore des spectacles, lui?
Oui, ah, je sais pas, j'en avais vu un une fois, c'était impressionnant.
Ça dure combien de temps?
Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler.
De Braghetti,
je sais plus, mais ça dure, normal, une heure et demie,
Quand même, il arrive pendant une heure et demie à se changer. C'est passionnant,
c'est
le truc.
J'ai vu ça une fois, franchement, c'était ouf de ouf, quoi. C'est incroyable.
Tiens, juste avant de filer en Italie, petite réaction d'Adrien Rabiot, à l'issue du match de la victoire face aux Girondins de Bordeaux. Il a dit, il faisait chaud. Voilà, Adrien Rabiot.
Il a dit, il faisait chaud.
Alors, il y avait trop pas chaud.
Donc, trop chaud, il faisait froid en Bulgarie,
Bah, il y a un peu de ça. Je vais vous donner la
déclaration. En Bulgarie, c'est parce qu'il était remplaçant. Non, mais recontextualisons,
parce qu'on pourrait dire, ouais, vous les journaleux, c'était compliqué face à une bonne équipe. Ils attendaient pour contrer, ils ont beaucoup de bonnes individualités devant, il faisait chaud. Voilà ce qu'a déclaré.
Ah bah, en reconversion.
Oui, c'est une donnée de plus, quoi.
Il peut peut-être faire la météo à BFM. ça peut être pas mal.
Non, mais c'est une donnée, il donne plein de données dans son... C'est une donnée de plus, quoi.
Voilà, ouais, exactement. Ouais.
Très bien.
Bon, allez, faisait chaud également en Italie. 34e journée de Serie A.
Je sais pas si chaud que ça, tu vois.
Juve-Napoli.
Dans le stade, oui.
Tu as souffert, Simone, ce soir. Dis la vérité. Dis la vérité.
J'ai perdu 48 kilos.
Ah oui, donc, tu as souffert, on te voyait à côté de nous là, c'était
victoire 1-0 du Napoli.
150 000 euros si votre ton ami est millionnaire, Daniel.
Ah ouais, si tu veux t'aider. Ouais, mais c'est 10 kilos de
m'écoute même pas là.
Non, bien sûr que non.
Mais il est pas Juventus, là, Simone.
Non, je sais, mais c'est juste pour l'emmerder.
Parce que j'ai entendu dans l'avant-match, tu le chauffais avec ça, mais il est pas du tout Juventus.
Chaque semaine, je lui donne un club différent à Simone.
Il veut pas dire, laisse-le.
Ah, t'es dans la chambre.
Victoire 1-0 du Napoli, but de Koulibaly en fin de match.
Oui, mais.
D'où le pape, hein.
Ouais, voilà, j'ai noté ça,
dis donc, Koulibaly, il faudrait pas que Deschamps se mette un peu dessus, non?
Tu sais qu'il y a eu beaucoup de tweets là-dessus. Vous vous souvenez, c'est ce fameux joueur international sénégalais, Deschamps avait déclaré au CFC à l'époque.
Franchement, c'est un monstre, un Koulibaly.
Et c'est un monstre.
Non, mais il est fort comme joueur,
c'est pas le but qu'il a marqué.
Ouais, mais c'est pas juste un mec physique, il a une qualité de relance, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de foot, vraiment.
Il a annulé totalement Higuain, mais c'est la Juve qui a été annulée ce soir. On n'arrivera pas à savoir, pas ce soir encore, si c'est les choix d'Allegri de empêcher seulement Naples de jouer. Ils n'ont pas réussi de défendre seulement le résultat.
Le dépôt éternel d'Allegri. À chaque fois qu'il y a un gros match, je parle de ça, moi.
Je suis d'accord.
À chaque fois, c'est toujours pareil avec lui.
On rentre souvent dans le même débat. La vérité de ce que c'est ce soir.
C'est vrai, souvent ça tourne autour de ça. Naples a plus joué que la Juve.
Jérôme Thomas est en train de m'interpeller. Il y a Malcolm en zone mixte. Il y a peut-être signé Napoli. Avec le look, le swag, Malcolm.
Son match, et voilà, il a fait beaucoup d'arrêts. Il est fort qu'il faut, on peut frapper 20, 25 fois si le gardien est là. Je pense qu'il faut faire encore mieux. Mais cette semaine, il faut travailler pour marquer contre Dijon.
Bon, on a l'impression que vous avez fait peut-être un de vos meilleurs matchs de la saison contre une grosse équipe. C'est compliqué de se motiver aussi, de mettre la même intensité contre les plus petits.
Non, il faut penser que tous les matchs, c'est contre PSG. Comme ça, on a toujours plus envie de jouer contre Dijon, Saint-Etienne, tout le monde. Si on joue comme on a joué ce soir, je pense que tout le championnat, je pense qu'on était au haut de tableau.
Voilà, c'est la réaction zone mixte de Malcolm. Voilà, avec sa casquette. Moi, je t'ai coupé, Simone. On rappelle que Bordeaux s'est incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain. C'est Juve et Napoli. Napoli revient à un point de la Juve.
Alors, pour commencer avec l'effet de la soirée, Naples revient à un point de la Juve. Mais non, il a presque un avantage du calendrier et mental dans l'autotitre. Ça va être très très chaud.
Tu l'as le calendrier des deux équipes là ou pas?
Oui. Très simplement.
Mais déjà, le week-end prochain.
Fiorentina-Naples et Inter-Juve. Ça va être hyper chaud.
T'as pas la Coupe du Monde, mais t'as un beau championnat.
Naples-Turin, Naples-Torino et Juve-Bologna. La semaine après, Sampdoria-Napoli et Roma-Juve. Donc,
Il y a des affiches, là.
La Juve a deux déplacements incroyables. Après, bien sûr, Napoli-Crotone et Juventus-Verona. Mais, le match qui peut décider d'une certaine façon le titre, c'est déjà samedi soir. Parce que si la Juve arrive à gagner.
Putain, pour l'Inter, le kiff que c'est si t'enlèves le titre de la Juve.
Déjà, et l'Inter en plein loot de Ligue des Champions, c'est pas seulement, qu'on peut dire l'ennemi historique que la Juve. Mais si la Juve arrive à gagner face à l'Inter, risque de donner un avantage énorme à la Roma dans la lutte à Ligue des Champions et pourrait même s'ouvrir un petit peu la route pour l'avant-dernière semaine.
Naples, ça va les rebooster parce que je sentais qu'ils étaient un petit peu.
Naples, les quatre derniers matchs, c'était catastrophique.
C'était pas bon.
Ils ont gagné souvent la 90e minute.
Et là, aller marquer comme ça la dernière minute, comme ça, je pense que ça peut les.
Sauf.
Il y avait Sarri qui commençait à péter un plomb, qui était plus très clair, il faisait un peu le gros beauf dans les confs et tout.
Bah, déjà, il fait pas des confs souvent, il a pas fait des confs d'avant-match.
Non, mais quand il parlait ces derniers temps, il m'avait un peu saoulé, Sarri, alors que je l'aime bien, mais je le trouvais un peu grossier, inutilement.
Est-ce qu'il a pas la tête ailleurs, déjà, lui aussi? Il a annoncé partant, Sarri, là, depuis un moment aussi.
Sûrement, il est en train de négocier.
Partant, franchement,
avec,
je vois pas où il pourrait aller avec son.
Il est en train de négocier. On en parle notamment à Arsenal, hein.
Ah, non. Ah, j'y crois pas.
Non, l'offre, celle qui est plus sérieuse, c'est qu'on se lance les fonds sur italienne. Et moi, j'ai des contacts qui me disent qu'ils sont dessous, c'est Monaco. Sarri en clause de départ à 8 millions d'euros. Monaco serait intéressé. En Italie, part beaucoup d'une offre déjà faite à 6 millions d'euros net par an à Sarri, qui voudrait bien une nouvelle aventure si avec Naples, ça ne termine pas bien. Et selon mes infos, Monaco quand même y réfléchit à Sarri. Après, il faut qu'il se libère des Jardim, que Sarri arrive. Mais... c'est vrai qu'il lui, il est beaucoup suivi.
Ça arrive à passer de Naples à Monaco, ça va lui faire bizarre. Hein.
Ouais. Bien sûr, ça va lui faire bizarre.
On est au niveau de tout, on est au-delà du choc culturel. Hein. Non, mais au niveau de tout, l'environnement, les villes, les gens.
C'est l'opposé.
Après, en parlant d'ambiance.
C'est le choc culturel.
J'ai vu Zambit aller chercher les images de ce qui est en train de passer.
En ce moment,
les feux d'artifice, les gens qui sont dans la ville à klaxonner.
Feux d'artifice ce soir.
Ouais. Ah non, ils sont pas champions quand même.
Depuis combien de temps Naples n'avait pas battu la Juve?
C'était 2009. Victor 2-3 en 2009 avec doublé d'Hamsik. Quoi. Et c'était pas un match si important, bien sûr. Ça, c'est le match qui pourrait être du titre en sachant le calendrier. Mais alors, si Allegri a raté ce match, Sarri a fait tout à la façon, d'une façon parfaite. Naples a géré, Naples était offensif, agressif, dans les bons timings. Higuain, on l'a pas vu. Allegri était obligé d'échanger, de faire sortir Dybala à la mi-temps. Autant il était nul Dybala, il a cherché, en mettant Cuadrado, de jouer plus en contre encore. Donc, la seule façon de chercher, de gagner, de faire quelque chose dans ce match, c'est de faire des contres. Donc, note très élevé, presque 10, 9 pour Sarri et pour Napoli. C'est soir, la Juve, encore une fois, a perdu une match décisive à la dernière instante. Il y a une grosse erreur de marquage de Mehdi Benatia sur Koulibaly.
Depuis le début de la saison, tu dis que la Juve va être championne, même au moment où ils étaient beaucoup moins bien classés que maintenant. Est-ce que tu continues de penser ça?
Oui, je continue à penser ça parce que si dans les gestions du match Allegri a raté, je pense que la gestion de la semaine la va faire au top. Je vois plus simple, entre guillemets, pour la Juve gagner face à l'Inter, qui pour Naples s'est confirmé à Florence. C'est pas si simple. L'enthousiasme à gérer pour Naples, c'est peut-être les moments plus difficiles de la saison, pour ce que la ville va donner, pour cette nuit.
Ça va redoubler de pression,
Sur la télé italienne, on parlait d'une possible retard du départ de Napoli de Turin, parce qu'il y a des milliers des supporters de Naples, c'est 3 milliards au départ de l'aéroport.
C'est pas simple à gérer pour
ça ce
club.
Ça risque d'avoir 5000 supporters ce soir attendre les supporters à l'aéroport, faire une fête toute la nuit. Et après, pour les joueurs, c'est remettre dans la tête que t'as rien gagné, que t'es encore derrière, et que tu dois encore tout faire. Ça pourrait être difficile. C'est les moments plus importants de la saison.
Le titre de Naples, je vais te dire, même s'imagine à la dernière journée, Naples a le match à gagner et ils sont champions. Tant que c'est pas sifflé la fin machin, je le croirais pas parce que c'est tellement dur à gérer en émotion pour ce club, pour cette ville, pour les gens et tout que j'ai l'impression que tout est possible. Ils ont pas l'expérience de cette gestion là.
Ça peut être piégeux.
L'émotion surpasse de beaucoup la raison dans cette ville et dans ce club. C'est pas simple.
Mais c'est qu'elle a fait ça ce soir et ce soir extraordinaire.
Pour moi c'était parfait.
Ils ont mérité la victoire.
Et encore une fois, c'est toujours les mêmes critiques sur Allegri.
Zéro tir cadré. C'est la première fois de l'inauguration du Juventus Stadium.
Ils ont pris énormément de cartons jaunes. La Juve vient d'être suspendue pour le prochain match.
Ils ont joué le 0-0, genre le statu quo au classement, quoi.
Voilà. Merci Simone. Tiens, petite info très importante également. Jérôme Thomas est allé vérifier. Arturo Brachetti est en tournée à Carcassonne le 15 mai et il sera à Mérignac le 17 mai. C'est vrai, c'est des vraies dates, c'est pas des
bon, on y va.
Non, mais t'es dans l'after, on dit pas n'importe quoi ici, bien entendu. Petites infos du jour. Le retour de Benjamin Mendy. Il était blessé depuis septembre dernier. Il n'avait pas encore joué. Alors, il avait joué avec les moins de 23, l'équipe de City des moins de 23. Il a rejoué aujourd'hui face à Swansea. Victoire 5-0 des Citizens. Et il s'est exprimé à la fin du match, notamment sur la possibilité d'aller disputer la Coupe du Monde. C'est dans 53 jours maintenant.
L'objectif, c'est de continuer comme ça, de prendre le temps de jeu que le coach me donne. Et après, pour le reste, on verra. Mais je suis revenu sur la pelouse, donc je suis apte, je suis sélectionnable. Et après, c'est au sélectionneur de faire ses choix. Mais on a le temps encore. Il reste quelques semaines. et je travaillerai au maximum pour faire de bonnes performances.
Ah, il reste peu de temps hein, quand même à Benjamin Mendy pour être opérationnel pour la Coupe du Monde.
On en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, un lundi soir. Le problème est pas de savoir si s'il est apte ou pas là, parce que bien sûr qu'il l'est, il a fait sa rééduque, il est sur le terrain, il a repris avec la réserve, il reprend avec les pros, on va le voir, il va jouer jusqu'à la fin de saison, j'en suis quasiment persuadé. Le problème c'est de savoir si au moment de la Coupe du Monde il va être physiquement au top ou s'il va être dans ce creux que tu as après ta reprise derrière une longue blessure comme ça comme les croisés, où t'as forcément à un moment donné une chute au niveau physique.
Avant même c'est le match, hein, avant même le match, il a débuté sur le banc. Benjamin Mendy, Guardiola avait expliqué hein, en conf d'avant-match qu'il allait faire en sorte qu'il soit opérationnel pour la Coupe du Monde. Hein, Benjamin Mendy.
Tant mieux, j'espère.
Il y en a un qui sera pas opérationnel jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa, c'est Sakai, Hiroki Sakai, qui est forfait face au RB Salzbourg. Entorse du genou. C'est vrai que c'est le troisième joueur comptant le plus de minutes cette saison du côté de Marseille.
Et forfait pour ce match-là, mais même un peu plus longtemps alors. Bah, entorse du genou, c'est quoi c'est, on a des précisions ou...
Non, pour l'instant non.
Ouais, ça peut être une.
Vous savez qui sont
une
les joueurs marseillais les plus utilisés cette saison?
Rami.
Ouais, joli. Le plus utilisé derrière, bon, c'est logique.
Gustavo.
Ouais, malgré les suspensions, Luis Gustavo, c'est le deuxième joueur le plus utilisé.
Et je crois que Rami est un des joueurs d'Europe les plus utilisés cette saison. Il me semble.
Ouais, c'est pas impossible.
Il me semble.
Ouais. Et puis sachez que tout est vendu pour ce match de Ligue Europa. Le site de l'Olympique de Marseille qui a planté tant il y avait de demandes aujourd'hui.
C'est très bien.
Et ils ont dû même s'excuser. Ils ont même expliqué qu'ils avaient vendu. Il y avait 180 000 demandes de places pour ce match.
Et ben, dans cette histoire, je trouve que ce qui est bien, c'est que alors bon, c'est vrai qu'au début on a reproché. C'est fini.
Alors, mais très vite alors.
Non. On parlera de ça.
Garde-le pour demain soir.
Garde-le pour demain soir.
Mais bien sûr, on est là. Lui sera pas là, mais nous on est là, Daniel.
Bien sûr, avec Jean-Louis Tour. Merci à toutes et à tous.
Le RMC Poker Show, faut y aller, là.
Voilà, le RMC Poker Show enchaîne, pour ça que Daniel est pressé. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci Simone et Pierre Ducrot.
Merci à toi, surtout. Comment dire au revoir?
C'était l'After Foot sur RMC. Sikaflex. Sikaflex, 50 ans de réflexe.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.